au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 quatre fois bonjour, parce que ben, c'est la quatrième journée de la semaine. Enfin, pour une fois, j'ai une réponse rapide. Allô, Mathieu, comment ça va?
Il va très bien lui-même.
Oui, oui, alors nous, c'est notre jeudredi, parce que nous n'avons pas d'émission le vendredi, ce qui fait qu'on
en
a...
En direct, oui.
Ouais, en direct, c'est vrai. Moi, ça me donne un long week-end. Pas toi, je pense que tu travailles demain.
Eh oui.
Voilà, voilà. Ben, aujourd'hui, donc, c'est le 27 août. Au niveau de la météo aujourd'hui, ben, ça va être un passage d'un front froid d'est en ouest, de l'Ontario vers le Québec et vers les provinces atlantiques. Donc, de ce matin à demain. Ennuagement, donc, aujourd'hui, des averses qui débutent selon ce qu'on est. Ça peut être ce matin, cet après-midi ou ce soir. Et ce passage, donc, va faire en sorte que les températures vont diminuer un peu. Alors, si on est à 26 à 31 avec l'humidex présentement, ça va être probablement autour, même demain matin, on pense que ça va être autour de 13-14 degrés là, au Québec. Il y a juste Terre-Neuve là, qui est épargnée par ce mouvement météorologique. Ça reste ensoleillé pour les deux prochains jours, 26 degrés et 28. Et pour le reste du pays, Manitoba, Saskatchewan, on est dans le soleil. C'est 23 Manitoba, 30 en Saskatchewan. Et puis, c'est de la pluie ailleurs, hein, Alberta et Colombie-Britannique, 19 à 20 degrés. Aujourd'hui à l'émission, nous avons le bonheur de recevoir Yvan Deslauriers et Monique Kerouac. Allô tous les deux.
Bonjour.
Allô, bonjour, allô. Denis. Oui, alors ben, je commence par toi, Yvan. Ça sera quoi ta chronique aujourd'hui?
Ça va être une découverte. Mm-hmm. Je ne sais pas, Denis Martin, si vous connaissez le cheerleading.
Non.
Alors, on est... les gens qui vont voir du sport, particulièrement le football, sont... exposés au cheerleading. Au départ, c'était juste des jeunes filles qui dansaient d'une façon saccadée pour encourager les gens à encourager leur équipe. Mais c'est devenu un sport avec des acrobaties, avec on fait des pyramides humaines, des choses comme ça, avec un rythme, avec une musique. Et là, ce que je vais vous raconter, c'est que des personnes neurodivergentes et en fauteuil roulant peuvent aussi participer à des équipes de cheerleading. Alors, c'est vraiment une découverte pour moi, puis j'espère pouvoir le partager avec les auditeurs ce matin.
Et de ton côté, Monique?
Eh bien, peut-être que vous aimez jouer à des jeux de société, Denis Martin?
Oui, j'aime beaucoup.
Oui? Ouais. Alors, il y a deux professeurs qui se sont intéressés au succès de certains jeux de société. Pourquoi on préfère, on adopte ces jeux.
Comme alors, le Scrabble, entre autres.
Hein? Oui. Pardon?
Comme le Scrabble, entre autres.
Ben oui, mais c'est peut-être comment dire? Oui, c'est intéressant le Scrabble, mais on va penser peut-être à plus de jeux interactifs.
Ah oui, OK.
Vous allez voir, il y a une petite différence. Mm-hmm. Ça peut être peut-être risque, diplomatie, mais bon, c'est des vieux jeux, là. Il y en a d'autres qui mentionnent Crarium, je crois, si je me
rappelle.
Cranium. Ou Hitster.
Oui.
Enfin. Monopoly, celui-là, c'est un classique, hein, ça reste toujours. D'ailleurs, le titre de l'article, c'est Monopoly, Hitster, Cranium. Qu'est-ce qui explique le succès d'un jeu de société? Alors, ils ont mené une étude pour isoler les critères favoris des joueuses et des joueurs.
Excellent. Alors, moi, aujourd'hui, dans l'éphéméride du jour, ben, en fait, c'est pas vraiment l'éphéméride, je vous annonce quelques décès. Est-ce que j'ai des fans de Rocky Horror Picture Show ici? Parce que moi, j'en suis un, en tout cas.
Ben, non, pas moi. Ben, je sais que...
On connaît le...
Je suis allé voir le film.
Oui, et toi, Monique, pas tant?
Non plus, non.
Bon, j'ai déjà même...
J'aime pas les horror pictures.
Ah, mais je me suis déjà costumé. C'est vraiment pas un film d'horreur autant que ça. C'est plutôt une comédie. Alors, ben, on a annoncé le décès de Tim Curry, qui jouait le rôle de Frankenfurter dans Rocky Horror Picture Show, mais on l'a aussi connu. Hein. Il a fait beaucoup d'autres choses. Il a joué le brigand, hein, Rooster, dans le film avec la petite orpheline Annie. Il a joué dans Clou et à la télé... Pour vous, si vous vous rappelez, It, hein, il y avait Pennywise qui faisait peur aux enfants. C'était une série donc de Stephen King. Il a même joué Amadeus sur Broadway. Malheureusement, il a fait un accident vasculaire cérébral en 2012 qui l'a confiné à un fauteuil roulant et donc il est mort hier. On a annoncé sa mort hier. Un autre décès aussi pour la folle obsession des pois. Elle était connue pour ça, hein, l'artiste japonaise Yayoi Kusama. Aujourd'hui, la langue me fourche encore. Elle est morte à l'âge de 97 ans. une des grandes maîtresses ou matriarches de l'art qu'on appelle le contemporain. Et puis, le comédien et directeur artistique Pierre McDuff est mort hier après atteint d'un grave cancer. Il a demandé l'aide médicale à mourir. On se souviendra de lui parce qu'il a dirigé en plusieurs organismes à Montréal, dont le Centre des auteurs dramatiques, le Conseil québécois du théâtre, le Carrefour à Québec, la 7 Fred Barry. Et puis, oui, il était aussi de ceux qui ont parti là, ce centre de diffusion aux Écuries. Et puis aujourd'hui, on va terminer quand même avec une petite note un peu plus joyeuse, hein, ce retour sur l'histoire et les événements. En 1964, aujourd'hui, ben, c'était le film, la sortie du film Mary Poppins par Richard Stevenson avec Julie Andrews et Dick Van Dyke, qui connaît donc sa grande première au Grumman's Chinese Theatre à Hollywood. Le film deviendra un des classiques les plus célèbres des studios de Disney. Et je vais rester là, je vais vous demander de parler de cette prochaine chanson.
Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious.
Bon, alors, j'ai pas demandé à Mathieu qui fait la désannonce des chansons. À qui peut le dire, le nom de cette chanson?
Supercalifragilisticexpialidocious.
Ah ben, écoute, on n'est pas loin. Alors, il y a plusieurs façons de le dire en français.
Attends, on va applaudir Monique. On va applaudir là, Monique. Là.
Yvan, veux-tu t'essayer?
Non.
Non, OK. Ben moi, je vais y aller parce que c'est moi qui ai mis ça en onde aujourd'hui. Fait que je vais donc y aller, prendre mes responsabilités. Supercalifragilisticexpialidocious. Ça, c'était la version québécoise en passant. Ce qu'on a entendu, c'est la version française de France. Nous, on disait « expédélicieux », si vous vous rappelez, avec René Simard, là, quand ils ont fait la version pour le « Juste pour rire », hein, il y a quelques années de ça.
Oui.
Oui, c'était super bon, d'ailleurs.
Je l'ai vu, d'ailleurs. Oui.
Super bon. Alors, ben voilà, on termine avec une petite note joyeuse, puis on s'en va en musique.
Perdu la tête devant l'amour écran.
C'était la chanson « Amour, écran » de Claudia Bouvette.
J'ai le temps de lire une seule nouvelle, mais on en fera d'autres un peu plus tard. Alors, à ce moment-ci, ben, tout le monde le sait, hein, c'est une campagne électorale de 39 jours qui s'amorce aujourd'hui au Québec en vue du scrutin du 5 octobre. Selon le plus grand sondage de l'histoire politique québécoise réalisé par la firme Léger et publié par le Journal de Montréal auprès de 11 305 électeurs, la lutte s'annonce particulièrement serrée. Les couronnes nord et sud de la région de Montréal joueront un rôle décisif dans le choix du prochain gouvernement où le Parti québécois et la coalition Avenir Québec se disputent vivement le terrain. Dans la région de Québec, donc de la capitale nationale et de la rive sud de Québec, le Parti québécois et le Parti conservateur s'affrontent pour déterminer si le futur gouvernement sera majoritaire ou minoritaire. Le Parti conservateur enregistre également des gains dans le centre du Québec. De son côté, la première ministre Christine Fréchette tente sa chance à Trois-Rivières, un comté stratégique face aux péquistes en Mauricie. Et le Parti libéral du Québec conserve sa dominance sur l'île de Montréal, mais demeure presque absent en région, tandis que Québec solidaire fait face à des appuis en baisse à Montréal comme à Québec. Rapidement, dans la presse plus, des crues dévastatrices survenues hier à la frontière du Népal et de la Chine ont fait au moins 273 morts et plus de 1000 disparus, incluant 24 Canadiens. Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, le drame a été causé par l'effondrement d'un glacier de 600 mètres de large à plus de 5000 mètres d'altitude. La chute massive de glace et de roches a provoqué une secousse sismique de magnitude 5,2, engendrant des coulées torrentielles qui ont détruit des villages, des ponts et des infrastructures. Les coupures des réseaux de communication compliquent la localisation des sinistrés et des touristes présents dans le secteur. Le gouvernement canadien invite ses ressortissants sur place à s'enregistrer auprès du service d'inscription des Canadiens à l'étranger, tandis qu'Affaires mondiales Canada demeure en contact avec les autorités locales pour coordonner l'assistance.
Mon baby m'a vu partir et m'a demandé où je vais. J'ai dit tu vas m'aider, je suis parti pour vrai. Je l'ai vu dans ses yeux, c'était sur moi qu'elle comptait. Mais je peux pas donner ce que j'ai pas, mon gars, je fais pas exprès. Mon baby m'a vu partir et m'a demandé où je vais. J'suis encore en train de work, j'compte plus les heures qu'on met. Y'a des fois pour être first, faut mettre tout ce que t'es mon dernier. I know that shit hurt, mais c'est le prix si tu veux gagner. Babe, quand t'es pas là, j'm'ennuie de toi. Quand t'es là, j'm'ennuie de moi. C'était pas le même bon, on y quoi. Non, j'peux pas compter le nombre de fois où t'as pas pu compter sur moi. Quand j'sors du show, le cœur est froid. I did the most, et j'ai fait ce que j'pouvais. Pas pris de temps pour jouer au ghost. Normal que tu paniquais, qu'est-ce que tu veux, nobody knows. Pourquoi j'fais ce que j'fais, j'ai peur de l'amour pis d'être broke. Si j'finis seul, ça m'effraie. Mon baby, j'sais que t'es avec un autre, t'essaies de me remplacer. Pour ça, j'fais ce qu'il faut pour cope, mais le cœur est glacé. Y'a plus de rhum que de coke, dans mon cop c'est classé. Ce sera jamais assez. Mon baby m'a vu partir et m'a demandé où j'vais. J'ai dit tu vas m'aider, là j'suis parti pour vrai. Je l'ai vu dans ses yeux, c'était sur moi qu'elle comptait. Mais j'peux pas donner ce que j'ai pas, mon gars, j'fais pas exprès. Mon baby m'a vu partir et m'a demandé où j'vais. J'suis encore en train de work, j'compte plus les heures qu'on met. Y'a des fois pour être first, faut mettre tout ce que t'es mon dernier. I know that shit hurt, mais c'est le prix si tu veux gagner. Derrière chaque grand homme se trouve une femme épuisée. Y'a une histoire derrière chaque mec que je mets de côté. Ma psy me demande as-tu quelqu'un à qui confier. Madame mon meilleur ami si l'intérêt composé. Non y'a plus rien qui me fait rien. J'pense pas que celui que je déquitte serait fier de celui que je deviens. J'ai dit que j'allais changer mais j'ai menti, j'suis le même. Y'a que l'argent qui me réconforte, y'a que le work qui me fait du bien. Oh girl, ça fait des mois qu'on se parle plus. Y'a ta face quand je m'en vais dans mes messages en mes noms. J'essaie de pas faire le promesse, je sais qu'il y en a pas gros qui ont tenu. Danny sans un dream, ils savent pas toute la chance qu'ils ont eu. Mon baby m'a vu partir et m'a demandé où je vais. J'ai dit tu vas m'aider, là j'suis parti pour vrai. Je l'ai vu dans ses yeux, c'est sur moi qu'elle comptait. Mais j'peux pas donner ce que j'ai pas, mon gars, j'fais pas exprès. Mon baby m'a vu partir et m'a demandé où je vais. J'suis encore en train de work, j'compte plus les heures qu'on met.
C'était la chanson « Mon baby » de Aswell.
Et on va rejoindre maintenant Yvan Deslauriers. Yvan, le cheerleading pour tous, des neurodivergents aux personnes en fauteuil roulant, c'est donc ton sujet aujourd'hui.
C'est mon sujet et je vais vous parler d'un article qui est paru le 21 août sous la plume de Samuel Larochelle, en collaboration spéciale dans la presse. Et si j'ai un peu de temps par la suite, je vous parlerai aussi de Cheer Québec. Donc, il y a vraiment une association pour encadrer aussi toute cette activité.
D'accord.
Alors, il peut être surprenant d'entendre Nathan Pouliot et Géraldine Potvin parler de cheerleading avec des étoiles dans les yeux. Le premier se déplace en fauteuil roulant. Et là, notre ami Mathieu m'a glissé à l'oreille tantôt. Lui, il fait du cheerleading parce qu'il est en fauteuil roulant.
Mmh. Ah, c'est bon, ouais.
Oui, je sais, c'est pour ça que je voulais le souligner pour que l'ensemble des auditeurs en bénéficient. Le premier se déplace en fauteuil roulant et vit avec une déficience intellectuelle. La seconde, Géraldine Potvin, compose avec un trouble anxieux et un trouble du spectre de l'autisme. Pourtant, leurs équipes de paracheer les voient comme des atouts. Qu'est-ce que c'est du paracheer? C'est du cheerleading inclusif, adapté à tous les athlètes. Ça, c'est Dina Gontier, qui est entraîneuse et responsable du développement de la discipline dans la province avec Cheer Québec. Elle dit, on sait comment s'adapter et les mettre en lumière. C'est important de les inclure. Dans leur vie quotidienne, ils sont souvent mis de côté. Avec nous, ils évoluent en communauté. L'aspect social revient d'ailleurs souvent dans les propos de Nathan. Il dit « J'aime rencontrer des gens, participer à des compétitions et me garder en forme. » C'est un jeune homme de 18 ans qui a commencé le paracheer à Québec il y a 4 ans. Il ajoute « Je fais aussi du karaté, de la danse et du baseball. Mais le cheerleading est devenu ma passion. J'aime beaucoup faire du sport avec de la musique. » Depuis 2 ans, Géraldine Potvin sent les effets positifs du paracheer sur sa santé physique et mentale. Elle dit « Ça me change les idées et ça change le mal de place. » C'est une jeune femme de 29 ans, Géraldine Potvin. « Je me suis fait des amis en pratique et en compétition. » Les 2 dernières années, on est allé en Floride pour représenter l'équipe Canada au championnat du monde. J'ai eu la chance de rencontrer plein de gens qui viennent d'ailleurs. Le cheer est acrobatique et intense, mais il est possible de s'adapter à presque tout. D'ailleurs, Dina Gontier nous dit, ailleurs dans le monde, une équipe a intégré une personne qui n'a pas l'usage de ses jambes et a une faible motricité des bras. Cela dit, n'allez pas croire que les acrobaties sont réservées aux personnes sans déficience physique et intellectuelle. À Québec, on connaît une voltigeuse avec une déficience intellectuelle. Une voltigeuse, c'est une des athlètes qui est en haut d'une pyramide et qui, pour descendre, souvent fait une pirouette avant d'arriver au sol. Il y a aussi une équipe formée entièrement de personnes en situation de handicap. On ajuste les éléments pour que ce soit sécuritaire et on développe leurs habiletés comme chez les athlètes ordinaires. On part de la base et on progresse. C'est intéressant de les jumeler car ça développe l'ouverture des gens qui ne vivent pas en situation d'handicap. C'est toujours Dina Gontier qui nous parle. Tout le monde s'entraide. Ils sont très unis. Les gens sans déficience qui s'impliquent dans le paracheer sont très contents de venir aux pratiques. Ils ont un réel plaisir et ils développent de beaux liens d'amitié. C'est d'ailleurs la cousine de Nathan Pouliot, adepte du cheerleading depuis sa tendre enfance, qui a encouragé le jeune homme à essayer le paracheer. Selon le père de Nathan, Jean-Pierre Pouliot, il dit, elle savait exactement quoi faire avec lui. Comme parent, on avait davantage d'appréhension face au monde du cheerleading que ce qu'eux avaient envers Nathan. On se demandait carrément ce qu'il allait faire là-dedans, mais on a découvert un monde grâce à sa cousine. Dans son équipe, il y a 20%, un cinquième, des personnes avec un handicap physique ou une déficience intellectuelle. Nathan a sa place à part entière. On se concentre sur ses forces. Son fauteuil devient un outil pour faire des figures. Je trouve ça vraiment beau. C'est toujours le père de Nathan qui parle. Cette année, qu'on espère représenter le Canada au championnat du monde. Ça nous stimule beaucoup. Chez les Potvins, les parents de Géraldine, on mise beaucoup sur la réalisation de soi. Géraldine est la plus vieille des 6 enfants, selon sa maman, Bianca. On a toujours poussé pour la rendre le plus indépendante possible. Elle organise elle-même ses transports adaptés. Elle travaille à temps plein. Et elle fait ses activités comme les autres. Elle dit aussi, Mme Potvin, rappelle l'importance d'avoir des entraîneurs vraiment dévoués pour s'adapter à chaque athlète. Parce que ça prend énormément de pratique. Sans oublier de multiples stratégies pour s'adapter aux capacités cognitives de certains athlètes. Répétition fréquente des consignes, formulation variée, démonstration. Un coach peut proposer à l'athlète de prendre sa place, de remplacer l'athlète, et dans certains cas, lui demander si ça le dérange qu'il entre dans sa bulle pour lui montrer comment bien placer ses mains, par exemple. Avec le temps, même nos anciens, avec une déficience intellectuelle, sont capables d'aider les nouveaux. Elle souhaite créer, Dina Gontier, qui est en charge de Cheer Québec, elle souhaite créer des communautés de pratique et concevoir un programme standardisé pour les entraîneurs. Elle dit, on veut également offrir du mentorat et fournir des ressources pour rejoindre les personnes handicapées. J'aimerais beaucoup que le Québec devienne un précurseur para-cheer. Donc, c'était l'article dans la presse. Mm-hmm. Ensuite, je vais sur la page oui. de Cheer Québec.
Oui.
Et je vous dis aussi, pour préparer cette... Je suis allé voir aussi sur YouTube et vous allez voir des performances d'équipes de cheerleading, de para-cheer. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Alors, c'est une discipline, le para-cheer, qui est international.
Je t'inviterais peut-être à bouger un petit peu parce qu'on a un petit problème de te recevoir avec la connexion cellulaire. Peut-être que si tu bougeais un petit peu, ça va nous aider à mieux t'entendre.
OK, ouais. Je comprends. Ouais. Donc, à l'échelle internationale, l'intégration du para-cheer est relativement récente. Est-ce que ça va mieux maintenant?
Oui, ça va mieux, oui.
C'est une discipline qui a fait son apparition lors du championnat mondial de l'ICU. L'ICU, c'est l'organisme international de cheer en Floride en 2017, grâce à une équipe qui provenait d'Angleterre. La création de cette catégorie est attribuée à Rick Rogers, qui est un athlète britannique de cheerleading au départ. Et à la suite d'un accident sur lui, Rick se déplace désormais en fauteuil, hein. Mais malgré ce défi, il n'a jamais abandonné sa passion pour le cheerleading et a recommencé à pratiquer son sport 2 ans plus tard, en 2010. L'arrivée du para-cheer sur la scène internationale a permis de donner une visibilité importante à cette division, surtout à une clientèle encore peu desservie dans le monde du sport. Au Québec, le para-cheer, auparavant appelé Super Cheer, a vu le jour dans les années 2010, mais uniquement sous forme de démonstration. Il y a eu un véritable tournant en 2023 lorsque Jean-Lie Dugré, qui est directrice générale de Cheer Québec, a pris l'initiative de mettre le para-cheer de l'avant, autant dans un contexte récréatif et d'initiation que compétitif. Il s'agissait alors d'une nouveauté pour la province. Les différentes catégories ont aussi été ajoutées au document des catégories civiles, ce qui permet au club de se familiariser avec cette discipline. Dans la même foulée, Jenny Dugré a également développé une formation dédiée au para-cheer qui est présentée lors du tout premier congrès de Cheer Québec. Alors, aujourd'hui, au Québec, il y a 3 clubs ou écoles qui sont affiliés à une équipe de para-cheer auprès de Cheer Québec. Pour le moment, ces équipes proviennent principalement de la grande région de Québec. Ces équipes offrent l'opportunité à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et ou physique de pratiquer un sport adapté dans un environnement d'équipe stimulant et valorisant. Au-delà de la performance sportive, le para-cheer permet également aux athlètes de développer leur confiance en eux, leurs habiletés sociales, leurs capacités motrices et leur sentiment d'appartenance à un groupe. Ces aspects font du para-cheer un puissant levier d'inclusion, de développement personnel. Et je termine avec une vision d'avenir tournée vers l'inclusion. Comme l'inclusion fait partie des principales valeurs de Cheer Québec, nous souhaitons poursuivre, c'est Cheer Québec qui écrit, nous souhaitons poursuivre le développement du para-cheer à l'échelle de la province afin de rejoindre un plus grand nombre de personnes vivant avec un handicap. L'objectif, c'est de faire de notre sport un espace toujours plus inclusif et accessible. Cette démarche passera notamment par une collaboration accrue avec les clubs, les écoles et les entraîneurs afin d'élargir l'offre de services à travers le Québec. Cheer Québec s'engage également à offrir davantage de soutien aux entraîneurs qui souhaitent démarrer ce type de projet dans leur club ou leur école, notamment grâce à un programme standardisé, une formation en ligne ainsi que du mentorat. De plus, Cheer Québec souhaite offrir une plus grande visibilité aux athlètes en para-cheer afin de mettre en lumière leur participation et leur contribution au développement du sport. Le développement du para-cheer représente une occasion unique de rendre notre sport encore plus accessif et inclusif pour tous les athlètes du Québec. Alors là, il y a un appel pour les clubs de cheerleading de faire le lien avec para-cheer. Alors, pour moi, ça a été une découverte assez importante. Mm-hmm. Et j'espère que ça va susciter de l'intérêt chez certains de nos auditeurs et peut-être à les amener à créer une équipe de para-cheer dans leur domaine.
Bien, merci beaucoup, Yvan Delaurier. On va devoir s'arrêter ici. À la semaine prochaine, ça sera Hélène qui sera de retour à ce moment-là. Juste le temps de vous dire que Environnement Canada vient d'émettre une zone, en fait, une veille jaune d'orage violent là, dans la région de Montréal et autour. Alors, on attend des orages là, pour d'ici la fin de la journée. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bon, je rappelle pour ceux qui nous écoutent en direct, il y a une veille, en fait, on appelle une veille jaune d'Environnement Canada, une alerte jaune, pardon, pour des orages violents qui pourraient causer des dommages aux toitures, etc. Donc, peut-être le temps de ranger les meubles de jardin ou les meubles de votre terrasse pour éviter des problèmes. Donc, c'est aujourd'hui, ce jeudi 27 ou si vous nous écoutez donc en direct, c'est donc une veille d'alerte, une alerte jaune pour des orages violents. Sur ce, on s'en va vers la non-violente, mais la très douce, Monique Kirouac. Allô, Monique.
Oui, c'est sûr. J'espère que ça ne touchera pas l'esprit également.
Je pense que c'est tout le sud du Québec, là, mais je n'ai pas le temps de tout relire comme il faut.
On va vérifier ça sur nos cellulaires. Ouais. Alors, on va aborder un sujet un peu plus léger quand même.
Les jeux de société, oui.
Les jeux de société. Alors, on imagine le scénario, là, on est invité à souper, les discussions vont au bon train, on a bien mangé, puis voilà que quelqu'un propose de jouer à un jeu de société. Ben, peut-être que vous êtes de ce type de personne qui se dit, bon, pourquoi pas, ou peut-être que vous êtes de celles qui pestent tout bas en allant vous verser un autre verre de vin en vous disant, bon, ben, je suis bien obligée. Alors, Karine Gagnon, enseignante au Collège Hansic, et Alain Dastou, qui est professeur de marketing émérite à HEC Montréal, ils font partie de ceux qui aiment les jeux de société et l'expérience sociale qu'ils procurent. Mais ils sont aussi des chercheurs intrigués par ce qui explique l'appréciation d'un jeu de société. Alors, pourquoi tel jeu remporte-t-il un grand succès et tel autre non? Alors, pour répondre à cette question, vous l'imaginez, ils ont adopté une approche méthodique. Dans un premier temps, ils ont interrogé des professionnels de l'industrie, comme des créateurs et distributeurs de jeux de société au Québec, ainsi que des joueurs de jeux de société, et ce, tout profil confondu, que ce soit qu'on parle d'âge, de sexe, de fréquence, de type de jeu joué, dans une démarche exploratoire. L'objectif des deux chercheurs était de dresser une liste des caractéristiques qui peuvent avoir un impact sur l'appréciation d'un jeu de société. De votre côté, Denis Martin, qu'est-ce qui vous fait aimer un jeu de société?
Ce qui demande un peu de travail intellectuel qui fait tout ce qui touche à la langue, aux déductions, tout ça.
Donc, d'où votre mention du Scrabble lors de la présentation.
Tout à fait.
Oui. Alors, les critères, il y a la compréhensibilité, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des règles simples, est-ce que les objectifs sont clairs, le divertissement, le rythme, est-ce que ça, donc on pense à la durée, et aussi le temps d'attente, l'imprévisibilité, le pouvoir de décision, le niveau de défi, soit la complexité, et les caractéristiques échappatoires. Est-ce que c'est une expérience unique? Une fois cette liste en main, corroborée en partie par diverses opinions qui circulent dans les médias et sur le web, ainsi que par quelques études qui ont tenté d'expliquer pourquoi les gens aiment le jeu en général, ils ont mené une enquête auprès d'un échantillon de 169 joueurs adultes choisis de façon probabiliste dans le Grand Montréal. De façon probabiliste, ça veut dire de façon aléatoire, mais où chaque membre d'une population peut être représenté. Alors, leur objectif, c'était de vérifier à quel point chacune des caractéristiques mises au jour dans la première étape de cette recherche a un impact significatif sur l'appréciation d'un jeu. Fondamentalement, les résultats de l'enquête montrent que les raisons premières qui font qu'on apprécie un jeu de société s'apparentent à celles qui font qu'on accepte une invitation à souper. On veut sortir du quotidien, se changer les idées et pourquoi pas avoir du plaisir. En effet, le critère ayant le plus d'impact est la capacité du jeu à faire vivre une expérience hors du commun, comme se propulser l'espace d'un moment, peut-être dans la vie d'un valeureux conquérant ou dans l'habit d'une richissime femme d'affaires. Le deuxième facteur en importance qui explique l'appréciation d'un jeu est son potentiel de divertissement, c'est-à-dire sa capacité à nous faire interagir, rire et argumenter dans un esprit de plaisir collectif. Les résultats montrent que le niveau d'appréciation est significativement supérieur quand le jeu permet des interactions sociales, par opposition à un jeu qui requiert d'attendre son tour calmement. Alors, on pourrait justement contraster Romy et Scrabble, où les interactions sont moins fréquentes, avec des jeux comme Cranium ou Carcassonne, qui sont propices aux échanges et à l'argumentation. Ou encore, on pourrait considérer le jeu de société Hitster, dont l'immense popularité auprès des amateurs, entre autres de musique, pourrait sans doute être expliquée en partie par ce critère de divertissement. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Hitster, Denis Martin?
Oui, je connais.
Oui, vous y jouez?
J'ai déjà essayé. Je suis pas. C'est le jeu où c'est de la musique, hein? On doit deviner.
Oui, c'est ça. Oui, c'est 100 ans d'histoire avec des cartes ou.
Oui. Oui. Okay. Je suis pas aussi bon là-dedans, mais j'ai essayé. Oui.
Mathieu, vous avez joué à ça?
Oui, nous avons même joué ici avec l'équipe.
Ah oui. Oui. Alors ça a un certain succès.
Ça avait bien fonctionné.
Ah super. C'est un peu dans l'esprit des mille arpents, là, c'est ça?
C'est plus facile,
savoir,
d'après moi.
Là, il fallait répondre à des questions d'ordre de connaissance générale, en fait. Okay. Alors, il y a d'autres caractéristiques qui influencent le niveau d'appréciation d'un jeu de société, mais de façon variable. Ainsi, les surprises et rebondissements vécus au cours d'une partie constituent un élément ayant un impact positif significatif chez les hommes, mais pas tellement auprès des femmes, semble-t-il. Les résultats montrent en effet que les hommes aiment les jeux qui génèrent des situations imprévues, des péripéties. Alors, à titre d'illustration, Cranium est un jeu ayant un tel potentiel étant donné l'imprévisibilité des défis à relever, des changements constants de parcours et des cartes club qui risquent à tout moment de générer un affrontement collectif entre les équipes. Ne connaissant pas le jeu Cranium, j'ai fait une petite recherche et puis il semblerait que dans ce jeu-là, on peut mimer, fredonner, sculpter, décoder des mots et j'en passe. Alors, ça n'a pas l'air d'être très prévisible, en effet. Clou est aussi un jeu imprévisible du fait que les personnages ou les objets peuvent être transportés d'une pièce à l'autre et que des indices peuvent être dévoilés à tout moment, bouleversant alors le plan des joueurs. L'effet de l'imprévisibilité n'est donc pas observé chez les femmes. De plus, cette différence de genre est la même, quel que soit l'âge de la personne interrogée. Contrairement aux croyances des joueurs et des professionnels, le niveau de défi et l'influence du hasard ne sont pas des caractéristiques qui influent de façon significative sur l'appréciation de celui-ci. Par contre, le rythme du jeu est un élément important aux yeux des femmes. Un jeu dynamique et sans temps mort gagne la faveur de celle-ci, mais n'a pas d'impact significatif du point de vue des hommes. Finalement, la clarté et la simplicité des règles n'ont pas eu d'impact significatif sur l'appréciation. Mais il s'agit d'un résultat à interpréter prudemment parce que les participants connaissaient les tenants et aboutissants des jeux qui étaient évalués. Ces conclusions ont des implications réelles pour les concepteurs de jeux et les entreprises qui en font la promotion. Il apparaît que le succès d'un jeu repose sur deux facteurs principaux, sa capacité à nous faire décrocher de la réalité et le niveau de divertissement qu'il génère. Dans une moindre mesure, les jeux qui comportent des rebondissements et des surprises, de durée ni trop longue ni trop courte, se déroulant avec un bon rythme, sont plus appréciés. Ces éléments peuvent guider la conception, bien sûr, et la mise en marché de nouveaux jeux. Il faut garder en tête, toutefois, que la recherche s'est centrée sur les caractéristiques du jeu. Il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi influencer l'appréciation, comme les relations entre les coéquipiers. Ainsi, dans le volet qualitatif de la recherche, quelques joueurs ont mentionné la coopération et la rivalité pour décrire ce qu'ils aimaient ou n'aimaient pas d'un jeu de société. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus désagréable que quelqu'un qui veut absolument gagner, qui va utiliser toutes sortes de subterfuges pour y parvenir, comme peut-être tricher, hein?
Ouais.
Oh mon Dieu.
On
alors
aime pas
à vous
ça.
Jouer, chers ouais. amis.
Rapidement, il nous reste une minute. Est-ce qu'on a le temps de faire cette brève qui parle de notre posture qui peut avoir une influence sur notre humeur?
C'est trop long. C'est 2 minutes.
Ah bon. Ben écoute, on va faire ça la semaine prochaine parce que je dois aller à une autre entrevue très bien après notre chronique. Ben Monique, ça a été un plaisir de travailler avec toi cet été et puis à une prochaine.
À une prochaine.
Merci.
Et oui, portez-vous bien surtout.
Certainement. Nous, on s'en va en musique.
Les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne. Arque ta voile, aussi la mienne. Fais comme si nous en étions toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond comme au large de l'île. Doux comme une aile distordée, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Si les trésors dans nous avions la clé, le plan, la carte et la belle aventure n'étaient que rêves et qu'impostures. Évoque-les, évoque-les par des drapeaux de pluie dans les matures. Par des drapeaux de pluie dans les matures. Profond comme au large de l'île, doux comme une comme l'Angleterre, je t'aime.
fait facteur ou jardinier. Ne me viens plus parler de contrebande, mais si tu veux que je me pende au grand hunier, raconte-moi que tu as vu l'Irlande. Raconte-moi que tu as vu
la chanson de Gilles Vigneault, Si les bateaux, chantée par Lou-Adrienne Cassidy.
Bonjour, Gemini. Dis-moi, devrais-je tomber amoureux de cette personne que j'ai rencontrée hier? Ah, la fatigue décisionnelle. S'en remettre à la technologie pour décider à notre place, ça peut aller très loin, même dans nos relations amoureuses. D'ailleurs, c'est le sujet de la pièce « Changer de vie » de Catherine Léger, qui revient au théâtre La Licorne, parce que ça a tellement été populaire qu'il y a des supplémentaires. Pour nous parler de tout ça, nous recevons Marilyn Castonguay, qui fait partie de la distribution de ce grand succès du début d'année. Allô, Marilyn!
Salut!
Hey, c'est un plaisir.
Merci de te voir.
C'est un plaisir que tu sois avec nous. D'abord, il faut le dire, cette pièce a cartonné, salle comble pratiquement tous les soirs. Qu'est-ce qui explique que ça, c'est le sujet, l'humour, le texte ou tout ça en même temps?
Ben moi, je pense que c'est toutes ces réponses.
Ouais.
Oui, parce que tu sais, c'est une réalité, on baigne dans l'intelligence artificielle, puis je sais pas vous, mais je sais pas trop moi où me positionner par rapport à ça, puis on sait pas nécessairement aussi c'est quoi les conséquences à long terme de s'en remettre à ChatGPT ou à un autre. Là, je pense qu'il y a Claude, je pense qu'ils ont tous des noms.
Il y a Claude, il y a Gemini, il y en a plein, là,
ah,
oui.
C'est ça, tu sais, ouais. Moi, je suis déjà dépassée là, de tout ça, tu sais. Puis c'est dit avec, c'est dépeint avec humour. Puis mm-hmm. Je pense justement qu'on extrapole les situations pour montrer à quel point, à un moment donné, ça devient ridicule, là, de s'en remettre toujours à ChatGPT ou à l'intelligence artificielle comme ça. Puis je pense que c'est ça qui rejoint les gens. On n'a pas l'impression de se faire faire la morale, mais on réfléchit en même temps.
Oui.
Puis on se positionne aussi à c'est quoi nous autres notre consommation de l'intelligence artificielle. Tu sais, jusqu'où on va nous-mêmes. Fait que ouais, on peut rire de nous un petit peu aussi là-dedans.
Huguette, on te connaît. Excuse-moi, je te tutoie, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps.
Excuse-moi, moi aussi, je te
tutoie. Il n'y a pas de problème. On te connaît depuis, pour tes rôles, tes nombreux rôles au cinéma, à la télé, puis je vais quand même nommer Huguette dans C'est comme ça que je t'aime.
Ouais.
Alors, oui, hein, je pense que c'est un rôle qui t'a marqué. Mais toi, Marilyn, t'as fait beaucoup de scènes quand même, ceux qui ne le savent pas. J'ai quand même fait une petite recherche. T'as été souvent sur scène. Qu'est-ce qui est différent entre jouer au cinéma ou à la télé et la scène, et comment on approche?
Ben, tu sais, moi, je viens du théâtre. J'ai fait l'École nationale de théâtre du Canada de 2006 à 2010. Fait que c'est ma formation. Puis avant, j'ai dansé aussi. Fait que la scène, c'est là que j'ai commencé. Puis c'est un espèce de sans-filet qui me stimule vraiment beaucoup.
Ouais.
Puis t'as le public là, t'as les réactions immédiates. Tu sais, tu peux pas... tu peux pas vraiment te sauver. Puis tu vois c'est quoi la réaction que ça fait, puis il faut que tu deals avec, il faut que tu fasses avec, tu sais. Si ta blague, elle tombe, bien, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir, ton instinct de survie? Puis c'est vraiment un moteur pour moi. Puis il y en a beaucoup qui me demandent ce serait quoi mon choix entre la télé, le cinéma et le théâtre. Puis je peux vraiment pas choisir parce que maintenant que j'en ai fait beaucoup aussi du jeu à la caméra, tu sais, ça m'amène vraiment quelque chose aussi de palpitant puis de fort. Mais l'actrice en moi a besoin de retourner au théâtre.
Ouais.
Justement pour le temps de recherche, pour le questionnement comme qu'on se fait profond, puis le sans-filet. C'est du sport faire du théâtre. Là.
Ouais.
C'est comme changer de vie. On le fait du mardi au samedi, des fois deux fois par semaine, le dimanche. C'est sept fois par semaine qu'il faut que tu revisites ton émotion. C'est un abandon que je trouve que pour un acteur, c'est une école et un outil formidable qu'il faut continuer à développer.
Et surtout de la comédie. Je pense que c'est vraiment la forme, je dirais que c'est probablement la forme la plus difficile à faire pour un comédien ou une comédienne.
Bien sûr, le rythme, le timing comique est vraiment difficile à pogner, là, si je peux dire. C'est moi qui ai fait beaucoup de drames, j'étais contente d'être dans le changer de vie pour reprendre ça. C'est comme, OK, oui, c'est vrai que si je le dis de même, ça va rire plus que si je le dis de même. Ah, OK. Fait que c'est tout ça à trouver aussi, le rythme de tout ça.
Ben, si ça peut te rassurer, là, moi, j'ai vu la pièce déjà, puis j'ai ri, j'ai rigolé à tout, je pense, à tous les bons endroits et même aux mauvais aussi.
Alors... Ben, c'est ça, ça nous parle différemment.
Ouais.
Puis on s'entend que le texte de Catherine Léger est quand même exceptionnel. Sa façon d'écrire, de mettre en scène ses personnages... C'est un peu dépassé, mais un peu naïf aussi, mais avec des réflexions profondes. Puis la mise en scène de Philippe Lambert, épurée aussi, qui est là pour soutenir tout ça. Puis mes partenaires sont formidables. Steve Laplante, Hubert Proulx, Isabelle Brouillette, c'est des partenaires exceptionnels. Là,
ben justement,
puis on est en Cadillac. Hein.
On va parler des personnages. Commençons par le tien, on va parler aussi des autres. Alors, comment tu abordes cette égocentrique, ingénue qui, en fait, c'est elle qui déclenche le chaos dans cette pièce-là.
Oui, elle déclenche le chaos de par son utilisation d'intelligence artificielle. C'est une femme extrêmement seule, mais qui essaye d'être dans la vie par ses des moyens douteux. Mais tu sais, elle s'en rend beaucoup à l'intelligence artificielle pour se sauver parce que, socialement parlant, elle n'est pas apte. C'est drôle parce que tu sais, elle est pas apte, mais elle fait rien pour le développer parce qu'elle s'en remet à une machine. Fait que, c'est ça, c'est tout est son contraire pour tous les personnages dans cette pièce-là. Elle débarque chez ce couple-là, et Christian et Nathalie, puis pour demander de l'aide parce qu'elle est en détresse, puis c'est ChatGPT qui a dit d'aller chez elle. T'sais. Et là, s'ensuit justement de qui est cette étrangère. On a besoin de... On a envie de la connaître puis d'en prendre soin. Mm-hmm. C'est ça qui fait en sorte que le chaos s'installe dans l'histoire puis des événements qui n'ont pas de bon sens ici. Là. Mais cette, puis on ne l'a pas abordé, si je peux dire, d'une façon... on aurait pu l'aborder très déprimante, très noire, mais c'est pas ça qu'on a choisi de faire. Je pense qu'elle est un peu aussi... dépassé par ces événements. Tu sais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, sa détresse, on ne le sait pas nécessairement aussi au début, parce qu'elle a l'air très enjouée. Puis je trouve que ça, c'est intéressant, le décalage de ce qu'elle dit versus ce qu'on voit d'elle. Tu sais.
Tout à fait. J'ai l'impression aussi que les quatre personnages, les quatre interprètes aussi, vous jouez... On ne juge pas. Hein, j'ai l'impression que vous ne jugez pas vos personnages. Ils sont ce qu'ils sont.
Oh non, pas du tout.
Et nous, ça nous aide. Ben, c'est un petit peu pourquoi des fois qu'on rit et on se dit « Oh my God, j'ai ri de ça, moi. Ça pourrait m'arriver, là, tu sais. »
Oui. Oui, c'est ça. T'sais, tout est assez... malgré le fait que ça dégénère un petit peu, là, mais ça pourrait tout nous arriver, ces situations-là. Puis, veut pas, des fois, avec les discussions après avec le public, ça le dit. Ouais, moi aussi, je demande à ChatGPT qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je me sens comme ça, puis c'est quoi son opinion par rapport à ça. Fait que moi, on rit jaune, je pense.
Ah oui. J'aimerais savoir ce que cette comédie révèle finalement sur nous. Qu'est-ce qu'on apprend de nous quand on... Ah, c'est une bonne question, hein? Parce que moi,
Ben, c'est la question, j'ai l'impression.
Oui, hein?
Pourquoi, oui, puis tu sais, j'en ai pas de réponse. Pourquoi il faut s'appuyer sur une machine? Qu'est-ce qui fait qu'on a tant besoin puis qu'on ne se fait pas confiance? C'est quoi notre manque intérieur qui fait en sorte qu'on a besoin de la machine?
Le besoin d'être vu,
Est-ce qu'on a tant peur de la confrontation du regard des autres sur nous? Est-ce que c'est un moyen de protection? Est-ce que c'est ça, un manque de confiance? J'en ai aucune idée. Ça, c'est un questionnement, je pense, des prochaines décennies. Non, mais vrai, tu sais.
C'est vrai, c'est vrai.
Qu'est-ce que ça révèle sur nous, ça? C'est un outil formidable pour plein d'affaires, mais en même temps, quand ça devient émotif, puis on ne jure que par ça pour nos propres décisions, bien, ça fait qu'on a capacité intellectuelle et émotionnelle.
Si je lançais peut-être parce qu'on a perdu depuis l'arrivée des réseaux sociaux et peut-être la pandémie, on ne sait plus comment interagir avec les autres, peut-être. C'est peut-être un début de réponse.
Oui, puis c'est la fatigue. La facilité,
ouais.
Je pense, d'avoir des réponses, de chercher, de, tu sais, qui cherche dans un dictionnaire maintenant un mot?
Plus facile de demander à ChatGPT, effectivement.
Ben, tu sais, là, il fallait faire les recherches avant Google. Puis là, en plus, on n'a même plus besoin de faire la recherche. On peut supputer qu'on demande à voix haute.
T'sais. Ben oui. Oh là là.
C'est... Je ne sais pas où ça va trop dépasser. Puis on a besoin de... On a besoin de moments de repos, que ce soit plus facile. Plus... Puis on nous demande d'être de plus en plus vite et de plus en plus efficace pour plein d'affaires.
Mm-hmm, c'est vrai.
Ben oui, c'est que tout va trop vite, tout le monde a l'impression d'être dépassé, fait que mais on tire dans le pied dans un sens parce que on développe des outils pour être plus vite. Fait que les gens s'attendent à ce que les réponses viennent vite. Fait que là, tu sais, c'est comme un espèce de cercle vicieux sans fin, j'ai l'impression.
Oh là là. Ben en tout cas, c'est certainement une pièce de théâtre qui fait réfléchir, mais qui surtout qui fait rire. Et je vais le répéter. J'ai vu la pièce. Je vais retourner la voir d'ailleurs parce que je me suis tellement amusé. Oui.
Oh,
alors, Marilyn Castonguay, merci beaucoup. Puis bon, j'espère on va te voir dans d'autres séries, j'imagine, très bientôt. Là, on a une petite minute pour dire un peu, toi, qu'est-ce qui t'arrive de bon?
Ben absolument. Moi, je suis en train de tourner une nouvelle série pour Télé-Québec. Ça s'appelle « C'est beau pareil ». C'est une comédie familiale. Ça va être en onde au mois de mars sur les ondes de Télé-Québec et sur les plateformes. Ça va être, quand même assez léger encore, mais c'est des situations familiales. Je suis la génération tampon qui a des parents au-dessus de moi puis des enfants en dessous. Puis comment tout le monde cohabite justement dans un chalet familial avec toutes ces réalités-là. Et je fais ça. Puis après, on va me retrouver au théâtre au mois de mars aussi, au Rideau Vert, dans une pièce qui s'appelle Le Dieu du carnage, mise en scène par Serge Denoncourt, avec encore des partenaires formidables. Puis il y a plein d'autres petits projets qui se développent que j'ai hâte qu'on place dans l'horaire. Là,
en tout cas, un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. C'était génial. Merci beaucoup, donc, Marilyn Castonguay. Et je rappelle que Changer de vie est présenté à la Grande Licorne du 1er au 17 septembre. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Bonne journée.
On dit souvent que derrière mes yeux fermés se cachent les larmes des matins austères. Et au son de ces mots qui brûlent mes artères, une force grandit en moi jusqu'à s'y déchaîner. L'illusion dans les vagues d'une immense liberté.
Au collège, j'ai toujours la tête en l'air dans les cours. Ton oreille sur mon chest s'éclaire, t'entends l'écho de quelqu'un. En fait, on est une folle à être seule. What's up, j'ai besoin de toi comme si j'ai plus de lighter. On se fait chier, everyday on se demande comment être ça. Trop d'émotions d'un deux points, je sais pas quoi faire avec ça. Yes sir, on voulait le monde avec tout qu'est-ce qu'il y a de temps. Pour ça, faut work, c'est pas juste une question de temps. Y'a deux races, y'a ceux qui parlent et puis y'a ceux qui passent à l'acte. Au départ, j'ai noirci des pages, j'avais peur d'être transparent. Puis si tu comprends, c'est qu'à quelque part, on voit pareil. Pour le pas que j'ai ses épaules, j'ai que ma plume et ma parole. Y'a rien qui peut battre une première nuit à être libre. Ni son rire quand on sautait la clôture de la piscine. On a peur de rien, on rentre dans vie comme un ring. Rien à battre, on est beau, jeune et invincible. Check un contraste, la vie est faite ainsi. J'fais mon rap, j'suis pas devin comme de Vinci. J'ai la rage, mon mic, mon blunt, mon NSI. Mauvais acte, on est rusé, tu connais le récit. Check un contraste, la vie est faite ainsi. J'fais mon rap, j'suis pas devin comme de Vinci. Premier track sur MSC jusqu'à 2026. Way back, on est beau, jeune et invincible. Eventail à Montréal, VDR c'est la DA. Lunettes noires, je suis une rockstar comme si je jouais à San Andreas. Je dois trouver la paix sans chercher à me venger. C'est chacun sa recette pour trouver à manger. Ça c'est un fait, y'a beaucoup de fake. Quand faut être là, ça se défile. Ce que tu me files, ça me rend ill. Je vois les phrases se détruire. Je rêvais de piles qu'on empile. Des lingots pis des billes. Des rêves de kids qui se gaspillent. Avec la blow pis des piles. Je fais du beat pour mon pipe qui bosse au gym ou à job. Qui survivent dans le street, à l'école ou à shop. Les mères de famille qui prient pour que le monde soit moins fucked up. Un enfant joue à toupie. Un autre a qu'un Beretta's pour la new gen dans le game. Pis pour les vieux de la vieille. On vise pas d'être le best, mais c'est de faire mieux que la veille. Je suis prête à me sacrifier. Quand je vais jamais cesser, ça craint, mais quand j'écris, c'est comme une lettre de suicide. Check un contraste, la vie est faite ainsi. Je fais mon rap, je suis pas devin comme de Vinci. J'ai la rage, mon mic, mon blunt, mon NSI. Mauvais acte, on est rusé, tu connais le récit. Check un contraste, la vie est faite ainsi. Je fais mon rap, je suis pas devin comme de Vinci. Premier track sur MSN jusqu'à 2026. Way back, on est beau, jeune et invincible.
La chanson « Invincible » de Rims.
Et après la pause, les parasports. Et on va parler aussi de ce programme Jeunesse Lecture Québec qui s'associe avec Vue et Voix. Alors, on vous parle de ça tout de suite après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Dans le silence depuis l'enfance, je me cache, je m'efface. Mise en lumière, comment me faire cette place, moi qui suis né pour que l'on me voie. Entre deux filles, dis-moi qui je suis. J'ai besoin de trouver ma place. Je connais les conflits, je fais trop de bruit, mais j'ai pas peur de mon audace. Regarde-moi bien en face. J'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. On a que moi. Dans le passé, j'ai caché ses marques loin. J'ai tant menti, oh oui, bien trop de fois. Mais j'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. Car les guerrières sont là et chantent encore des
la chanson Briller de Hunter X.
Vous allez savoir pourquoi j'ai fait jouer ça, parce qu'on va aller rejoindre notre correspondant, notre chroniqueur de Parasport, Dominique Tremblay. Allô, Dominique.
Bonjour, Dominique, ça va bien?
Ça va très bien. Alors, tu te doutes pourquoi j'ai fait cette chanson. Alors, où te trouves-tu présentement?
Ben, je me trouve à Séoul, en Corée du Sud. Moi, de mon côté, la chanson, elle avait un peu d'entrain et elle m'a gardé réveillé parce qu'il y a un gros décalage entre la Corée et Montréal, donc qui est près de 11h30. Ça fait 4-5 jours que je suis arrivé là en Corée, donc je me remets tranquillement du décalage horaire, mais disons que j'ai hâte d'aller voir mon oreiller, mais j'ai toujours du plaisir à venir vous parler.
Ah ben, on apprécie donc que tu sois avec nous, et puis ben voilà, parce que tu es en Corée du Sud, pourquoi?
Ben, c'est les championnats du monde de boccia qui se déroulent dans la capitale coréenne. Ça se déroule jusqu'au 4 septembre. Aujourd'hui, c'était la première journée des compétitions individuelles. Et ben, c'est le fun que ça a commencé. Puis il y a eu des belles performances.
Ah, ben c'est génial. Je veux savoir justement, est-ce qu'il y a des Canadiens là-dedans dont on peut parler?
Donc, il y a trois athlètes canadiens qui participent à cette grande compétition. Il y a de Julian Siabanu dans la catégorie BC4 masculin. Il a joué son premier match aujourd'hui, a remporté la rencontre 9-0 contre un athlète de la Slovaquie. Pardon, Alison Levine, elle va commencer demain. Donc, on espère des bons résultats de ces deux athlètes. Et il y a aussi un troisième athlète canadien de Sudbury, Lance Quiderman, qui a lui aussi gagné aujourd'hui son premier match.
Donc, on a des matchs à surveiller, j'imagine, dans les prochains jours.
Oui, c'est ça. Donc, les compétitions individuelles se terminent dans 4 jours. C'est tout d'abord un tournoi à la ronde et les deux meilleurs joueurs de chaque poule se passent dans des rondes éliminatoires. Les 16 meilleurs joueurs se font en élimination, pour mener jusqu'à la finale qui va avoir lieu dans 4 jours.
Bon, alors, tu es là pour voir les championnats. Est-ce que tu as eu la chance un peu de visiter non seulement le site, mais la ville aussi à Séoul?
Pas encore eu de journée de compétition, de congé.
Ah non!
Que je vais avoir une après-midi là, un peu plus tard dans la semaine. Mais ça reste que le site de la compétition de voiture se déroule dans le dôme de Séoul. C'est dans le parc olympique de Séoul des Jeux de 1988. Mmh. Les compétitions se déroulent dans l'aréna où il y avait eu les compétitions de gymnastique. Et le parc là, olympique à Séoul, qui est dans le centre-ville, est vraiment, vraiment beau. Il a été bien conservé et les gens, les locaux, habitent le parc. On voit beaucoup de gens courir dans le parc, là, sur les pistes cyclables et un peu partout. Et les utilisations des sites de compétition est très le fun. Donc, Montréal a beaucoup d'utilisation, beaucoup de. Il y a eu les Jeux olympiques à Montréal en 1976. On utilise encore beaucoup de sites de compétition, un peu comme le centre Claude Robillard, par exemple. Ouais. Et Séoul a fait un peu la même chose. Et c'est très, très beau. C'est le parc, c'est vraiment quelque chose à voir.
Cela dit, donc, j'imagine qu'on a dû quand même s'assurer de l'accessibilité parce que pour faire ces compétitions, il faut quand même que les gens puissent se rendre sur le site. J'imagine que ça a été fait, ça aussi.
Oui, mais aussi en 1988, il y a eu des Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques ont eu lieu dans les mêmes sites de compétition des Jeux olympiques. Donc, les sites sont quand même très bien accessibles. C'est vraiment cool. Puis aussi, ben, pour personnellement, 1988, c'est le premier souvenir que j'ai d'avoir regardé les compétitions lors des Jeux olympiques. Et je me rappelle là, un peu, bon, pas très, très réjouissant comme performance. Évidemment, l'histoire de Ben Johnson qui avait remporté le 100 mètres et qui avait été reconnu reconnu pour
coupable d'avoir
été coupable, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, de dopage et qu'on lui a retiré sa médaille d'or, mais il y a eu d'autres de belles compétitions, entre autres en nage synchronisé, où le Canada avait remporté des médailles d'or avec Caroline Waldo. Donc, c'est des premiers souvenirs que j'ai. Donc, là, c'est vraiment le fun d'être sur place et de revoir un peu ce qui s'est passé.
T'es là pour combien de temps encore, Dominique?
Alors, je suis là jusqu'au 3 septembre. Les compétitions en double et en équipe vont avoir lieu donc à partir du 1er septembre. Et je reprends l'avion le 4. On sera de retour à Montréal.
Bon, donc, tu auras eu le temps de te reposer pour la prochaine chronique avec Hélène, qui sera de retour la semaine prochaine. Bien, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps, malgré l'heure, le décalage horaire, d'être là pour nous, parce qu'il est tard chez vous. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, Dominique.
Ça fait plaisir et à la prochaine.
À la prochaine. C'était Dominique Tremblay, notre chroniqueur parasport.
mère monoparentale, laissée en plan, laissée sur le flanc, qui ont refusé de laisser leur enfant dans la poubelle. Elle assume jusqu'au bout, elle s'occupe de ses mômes sans se plaindre. Sa fille est aveugle, elle n'a Dieu que pour elle. Si elle pouvait, elle donnerait ses prunelles à sa fille pour qu'elle puisse admirer la couleur du ciel. Elle a jamais vu un coucher du soleil, la mère joue l'auto pour enfin toucher de l'oseille. La greffe des yeux, ça coupe les yeux de la tête. Pour avoir recours à ça, il faut les baisser d'âme. Malgré ses deux boulots, elle n'arrive pas à payer ça. Mais Teresa, c'est comme ça qu'on l'appelle. Un jour, on reçoit une nouvelle intéressante. Mais Teresa va toucher la cagnotte. Pendant tant d'années, elle a goûté au bâton. Maintenant, elle va enfin pouvoir goûter à la carotte. À la drogue, la prostitution. Elle est née dans un quartier difficile. Elle rêve du sommet, elle est au fond du fossé. Elle continue à rêver, même qu'elle n'a pas sommeil. Elle veut être musicienne, elle est grave passionnée. Mais pour l'instant, elle n'a pas d'oseille. Alors elle vend son corps dans les rues parisiennes. Un jour, un client laisse son empreinte. La jeune fille est tombée enceinte. Je te conseille de garder l'enfant. Elle me dit, au bio la ferme. Jusqu'à présent, ma vie était un enfer. C'est une bénédiction, faut que ces semences germent. Je mate la télé, 20 ans plus tard. Son fils est devenu une superstar. Hein.
Toutes ces épreuves nous ont tués.
La chanson Hopio de La Force.
Canalem et Vue et Voix s'associent à un nouveau partenaire, Jeunesse Lecture Québec, qui a pour mission de promouvoir la lecture chez les jeunes. Pour discuter de tout ça, on reçoit donc le directeur général de l'organisme Jeunesse Lecture Canada, Benoît Guillemin, ainsi que l'auteur et porte-parole Olivier Simard. Bienvenue tous les deux à Canalem.
Merci. Merci.
Je commencerai par vous, Benoît, pour commencer. Vous nous présentez la mission fondamentale de Jeunesse Lecture Québec et ce qui a motivé ce tout nouveau partenariat avec Vue et Voix.
Oui, en fait, Jeunesse Lecture Québec, c'est un organisme qui vise le développement du plaisir de la lecture chez les jeunes. On se rend compte, en fait, que la lecture, bon, premièrement, c'est un pilier vraiment important de la réussite scolaire. Puis on se rend compte aussi avec l'arrivée des écrans, avec le développement des écrans, le développement de tout ce qui concerne les technologies, que non seulement les compétences en lecture tendent à diminuer, mais aussi le plaisir de la lecture tend à diminuer. Donc, notre organisme, en fait, vise justement à développer ce plaisir-là parce que c'est un peu la base afin de développer des compétences. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a développé le partenariat avec Vue et Voix, qu'on est très, très fiers, en fait, de ce partenariat, parce que, bon, nous, dans le cadre de développer ce plaisir de lire, on lance un premier projet qui s'appelle Lire, c'est génial, et c'est un projet qui est destiné à l'ensemble des écoles primaires du Québec et qui vise tous les enfants du Québec, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs difficultés en lecture, etc. Donc, et on veut faire en sorte que tous les enfants du Québec puissent développer ce plaisir-là en faisant en sorte que toute la société supporte, en fait, l'enfant dans ce plaisir de la lecture.
Vue et Voix est reconnu pour faire ce qu'on appelle des livres audio. En quoi, donc, le livre audio pourra aider à développer ce plaisir de la lecture?
marche.
Mais en fait, nous, à Jeunesse Lecture Québec, on reconnaît que tous les types de livres, mais tous les types de lectures aussi sont reconnus, ont une valeur, en fait. Un enfant ou même un adulte, quand il ouvre un livre, que ce soit un livre manuel, que ce soit même un livre sur écran, hein, c'est pas soit un livre physique, je dirais, donc, ou que ce soit un livre audio, mais en fait, la personne a accès à tout un imaginaire, tout un monde, et c'est justement tous les bienfaits de la lecture qui sont transmis à partir de cette expérience. Donc, les livres audio sont des livres très, très importants, notamment aussi parce que, ben, justement, ça répond à des besoins qu'une certaine tranche de la population qui ont des difficultés à avoir, par exemple, ben, peuvent avoir.
Olivier Simard, en tant qu'auteur et porte-parole, comment percevez-vous l'impact, donc, justement, de l'accès à la lecture avec des livres audio pour capter, donc, les jeunes et émerveiller leur imaginaire?
Ben, je trouve ça super important. En fait, un peu comme Benoît vient de le dire, tu sais, le livre audio, c'est juste un autre moyen, un autre médium par lequel les livres peuvent se rendre à des gens qui y auraient sinon pas nécessairement accès. Tu sais, l'important, dans le fond, c'est que les histoires, c'est que les auteurs, c'est que les messages puissent se rendre aux gens. Fait que, tu sais, le livre audio, c'est quelque chose qui est vraiment super important, crucial à ce niveau-là. Et que, tu sais, je pense qu'on consomme aussi de plus en plus, de façon plus large, les livres audio. C'est quelque chose qui est quand même qui est en essor en ce moment depuis quelques années. Donc, je trouve ça vraiment trippant, vraiment super excitant d'inclure ce mode de lecture, si on veut, là, à ce qu'on met de l'avant là, chez Jeunesse Lecture Québec.
Oui, parce qu'en fait, le livre audio, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas nécessairement de difficultés à lire, mais qui aiment ça parce que ça leur permet de lire pendant qu'ils font autre chose, je crois bien. Hein?
Oui, exactement, en conduisant, en faisant la vaisselle, c'est tout ça. Donc oui, ouais, c'est quelque chose qui permet d'amener la lecture dans des lieux où elle n'allait pas auparavant. Tu sais, moi, j'ai jamais lu un livre au volant jusqu'à il y a quelques années. Donc, oui, exactement. C'est pour ça que le livre audio est quelque chose de bien fun, bien intéressant.
Benoît Guillemin, vous avez mentionné tout à l'heure ce projet phare qui s'appelle Lire, c'est génial. Sur le terrain, là, pour soutenir la littératie, comment ça va s'articuler, là, ce programme-là, au cours des prochaines semaines et mois?
Oui, en fait, Lire, c'est génial, c'est un grand défi de lecture qui est lancé à toutes les écoles primaires du Québec. Donc, tous les enseignants et les enseignantes sont invités à s'inscrire ou à inscrire leur classe, en fait, pour participer à ce grand défi qui va durer pendant tout le mois d'octobre, pendant le mois de la lecture au Québec. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but du défi, bon, on sait que la lecture, c'est un geste qui est individuel, mais c'est aussi un geste qui est collectif. La lecture, c'est avoir accès à tout un espace collectif, à un espace culturel, un espace de création, puis un espace de dialogue. Et c'est la raison pour laquelle, dans le défi, il va y avoir trois grands types de défis qui sont lancés aux jeunes. Donc, il va y avoir des défis individuels qui sont transmis à travers le passeport de la lecture. C'est-à-dire, chaque jeune va avoir son passeport de la lecture dans lequel il y a des défis individuels. Donc, les défis individuels sont des défis pour rendre l'expérience de la lecture plus agréable, plus ludique, mais aussi pour aider les jeunes à varier peut-être leur texte ou à varier leur façon de lire. Parce qu'on veut amener les jeunes à comprendre que la lecture, c'est pas juste de dire « OK, il faut que je prenne un moment pour lire ». La lecture, ça peut être « OK, j'ai 5 minutes, je sors mon livre, puis je lis 5 pages en attendant mon autobus ». Ça peut s'inscrire dans le quotidien, ce défi-là. Bon, ils essaient en fait de transmettre cette idée-là. Et ensuite, il va y avoir des défis de classe. Les défis de classe sont à réaliser en classe, justement. Ce sont des défis qui visent davantage, je dirais, l'idée que la lecture, c'est une rencontre. Donc, par exemple, on invite les professeurs à faire des cercles de lecture dans leur classe. C'est-à-dire, les jeunes vont lire un livre, ils vont en discuter, ils vont échanger sur la manière dont ils ont apprécié ou non, parce que ça se peut qu'on n'aime pas un livre aussi, donc les livres. Il y a des défis de classe où on invite les classes à écrire à leur auteur favori, etc. Donc, c'est vraiment pour mettre l'accent, en fait, sur cette expérience collective-là. Puis, le troisième niveau des défis, ben, il va y avoir les défis d'école. Donc, c'est-à-dire, les écoles participantes, parce que c'est un grand concours, en fait, où les écoles participent, en fait, ben, les écoles participantes vont pouvoir mettre en place des défis d'école, justement, où toute l'école va se mettre à la lecture en même temps. Donc, c'est ces trois niveaux qui sont, je dirais, mis en valeur à travers les défis. Et l'autre point peut-être important, mm-hmm. c'est que il y a des professeurs pour qui l'idée du concours, parce que c'est un grand concours national, donc à la fin, il va y avoir une école gagnante avec un système de pointage, mais il y a des professeurs pour qui c'est important, cette idée du concours, ça stimule, ça donne une motivation aux jeunes. Il y a d'autres professeurs qui nous disent qu'ils préféraient avoir une version sans pointage, uniquement pour le plaisir, etc. Donc, les professeurs vont pouvoir avoir accès aux deux versions des défis, en fait. C'est-à-dire une version avec calcul de pointage pour participer au concours et une autre version sans calcul de pointage, tout simplement pour le plaisir de la lecture.
Et de votre côté, Olivier, vous qui rencontrez souvent des élèves dans les écoles, c'est quoi quels sont, j'aurais dire, les plus grands défis là, pour donner le goût de lire aux jeunes aujourd'hui?
Ben, c'est sûr que, bon, évidemment, on peut pas passer à côté de la question des écrans là, qui sont quand en compétition directe avec le livre, là, quand un jeune a rien à faire, entre guillemets, ben, c'est beaucoup plus facile de se tourner vers un écran. Puis ça, c'est vrai pour les jeunes comme pour les adultes. Fait que déjà, à ce niveau-là, ça, c'est un défi. Je pense aussi qu'il y a l'idée que les jeunes, parfois, c'est important qu'ils comprennent ou qu'ils apprennent éventuellement que, tu sais, il y a des livres pour tout le monde. C'est pas parce que tu traites pas sur les romans, par exemple, que t'aimes pas la lecture. Il y a peut-être d'autres livres pour toi, d'autres genres. Il y a tout plein de genres. Tu sais, il y a une grande, grande variété de livres. Il s'agit juste de trouver le bon livre pour toi, celui qui va te plaire. Des fois, ça prend un peu de temps. Tu sais, il faut que t'en essayes quelques-uns. Éventuellement, tu trouves quelque chose que t'aimes. Tu sais, moi, j'ai commencé à lire là, vers l'âge de 16 ans. Je lisais pas vraiment beaucoup avant, mais moi, c'est un livre de développement personnel qui m'a comme ouvert à la lecture quand j'avais 16 ans, un livre sur la psychologie, tout ça. Donc, c'est pas nécessairement obligé d'être des romans. Fait qu'il y a une grande variété de livres, puis il faut comme jeune se donner le temps d'essayer, de goûter, d'essayer plein de trucs. Puis quand on trouve le livre qu'on aime ou des genres ou des auteurs qu'on aime, ben après, il faut intentionnellement créer un espace de lecture. Puis ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas toujours évident de s'arrêter pour dire, hey, là, je vais juste tasser mon écran, je vais me trouver un espace, je vais m'asseoir sur une chaise, je vais ouvrir un livre, faire une activité qui est plus lente. Tu sais, c'est un peu comme du slow food, là, lire un livre, là, ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est, ouais, le rythme de vie contemporain est un enjeu, mais il y a possibilité de trouver ces moments à travers justement l'habitude, en développant des habitudes de lecture où le livre devient comme une espèce de une petite routine ou un réflexe vers lequel tu tournes quand tu as un petit moment. Là. Donc c'est un peu ce qu'on veut amener avec notre défi Lire, c'est génial là, dans les écoles.
Ben, écoute, un projet intéressant. Messieurs, donc, Benoît Guillemin et Olivier Simard, merci beaucoup. Je rappelle que l'organisme s'appelle Jeunesse Lecture Québec et que cet organisme est en partenariat maintenant avec Vue et Voix Canalem. Pour plus d'informations, on peut aller sur jeunesselectureQuébec.ca. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et puis, dans les coop de l'information aujourd'hui, Marc Petitgros. Un résident âgé de 98 ans d'une résidence privée pour aînés, une RPA, dans la région de la Montérégie, vient d'obtenir une victoire judiciaire majeure devant la Cour du Québec. Le tribunal a tranché en sa faveur face à son établissement qui appartient au réseau des résidences Soleil. La décision confirme que le gestionnaire ne pouvait pas lui imposer des frais obligatoires pour des services mensuels dont il ne voulait pas, soit l'entretien ménager de son logement et le lavage de ses draps. À la suite de ce jugement rendu le 10 août, l'entreprise devra lui rembourser plusieurs milliers de dollars perçus au fil des dernières années. M. Petitgros avait auparavant essuyé des refus auprès du commissaire aux plaintes, du protecteur du citoyen ainsi que du tribunal administratif du logement, avant de porter sa cause devant les tribunaux. Cette décision suscite de vives réactions de contentement chez les organismes de défense des droits des aînés, Ainsi, la directrice générale du regroupement provincial des comités des usagers, Sylvie Tremblay, salue la détermination du nonagénaire, soulignant que ce dossier met en lumière la vulnérabilité et l'isolement de nombreux résidents face aux frais imposés dans leur bail. De son côté, la Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes souligne que ce jugement réaffirme non seulement la liberté de choix des aînés à l'égard des services payants, mais confirme également la compétence juridique du tribunal administratif du logement pour entendre ce genre de litige. Pour l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, ainsi que la Fédération de l'âge d'or du Québec, cette jurisprudence arrive à un moment opportun, alors que le milieu attend une révision de la réglementation sur l'exploitation des RPA, donc des résidences privées pour aînés. Les regroupements espèrent que le futur cadre réglementaire interdira de façon définitive l'inclusion automatique de services obligatoires dans les BO. Interpellée par écrit, la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, rappelle que les résidences privées doivent impérativement opérer dans le respect des lois et préserver le choix éclairé ainsi que l'autonomie des aînés. L'Agence Santé Québec indique pour sa part qu'elle demeure attentive aux décisions judiciaires dans le cadre de ses consultations en cours pour réviser la réglementation des RPA, tout en jugeant prématuré de se prononcer sur la portée exacte de ce jugement. L'entreprise des résidences Soleil n'a pas commenté publiquement la décision, mais dispose d'un délai légal pour faire une demande de contestation devant les tribunaux. Sur un rythme qui nous donne envie de danser. On va peut-être, ceux qui nous écoutent en direct, là, je vous rappelle qu'il y a une veille, une veille jaune de Météo-Canada. Ça s'étend de la région de Montréal jusqu'à la région de Trois-Rivières, tout le sud du Québec, notamment pour des bourrasques et aussi des risques d'orages violents. Donc, peut-être prendre le temps de rentrer les meubles de jardin et les meubles de vos terrasses avant que ça arrive. Donc, cette veille est en vigueur là, jusqu'à la fin de l'après-midi, fin de journée, dépendant de la région où vous vous trouvez. C'est le temps de vous dire, de vous souhaiter un bon week-end. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. J'ai animé et j'ai fait la recherche de cette émission pour toute cette semaine. Et je remercie aussi Mathieu Tessier qui était de retour de vacances. Pas trop dur, Mathieu, hein? J'espère que non.
Non, c'était pas dur.
Un gros, gros merci. Moi, je suis de retour lundi pour une dernière fois cet été. Par la suite, c'est Hélène qui prend le relais. Et ben, on se reverra un peu plus tard dans d'autres émissions à Canalem. À très bientôt.